Ah, bonjour tout le monde. Je me présente. Hein? C'est bon, à chaque fois que je prêche, je dois me présenter parce que je ne sais pas combien de personnes peut-être qui ne savent pas que j'ai été pasteur. J'ai essayé d'être pasteur pendant 15 ans ici. J'ai préparé le chemin pour Marc. Alors, on a tout un sujet ce matin qui est la chute. Et ça va être une partie. J'ai des questions que je me suis posées pendant les dernières semaines et que je nous pose ce matin. Et puis, on va essayer de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Et la première question, c'est dans quelles conditions, dans quel état vivaient Adam et Ève à la création, lorsqu'ils ont été créés? Et qu'est-ce qu'on peut dire? Le paradis, merveilleux, n'est-ce pas? Ils étaient bénis de Dieu. Ils étaient au sommet de la création. Vous remarquez qu'après le cinquième jour, Dieu vit que cela était bon, mais à la fin du sixième, il dit « c'est très bon ». C'est un peu ce que Marc nous a révélé la semaine dernière, que tout était très bon, tout était très beau, tout était extraordinaire. Et l'être humain, Adam et Ève, avaient une place d'honneur dans cette création-là, une place privilégiée. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'ils pouvaient avoir, ils faisaient partie de la vie divine, on peut dire. Ils n'étaient pas Dieu, mais ils avaient cette relation-là personnelle avec le Dieu qui venait de créer l'univers. Pas extraordinaire? Hein? Ça prend des wow de temps en temps, parce que me réveiller, bon. Wow! Ils étaient dans la relation homme et femme, la semaine dernière, Marc en a parlé, comment que Adam il a été content quand il a vu Ève. Hein? Vous vous souvenez, messieurs, quand vous avez vu votre femme la première fois? Hein? C'était l'harmonie, c'était la complicité, c'était wow! Hein? Il y a une relation personnelle avec le Créateur, relation personnelle, mari et femme ensemble, homme et femme ensemble. Donc, il y avait tout pour être heureux. Bonheur parfait, bénédiction sans limite. Et ma prochaine question, c'est quelle connaissance est-ce qu'ils avaient du bien et du mal? Une petite. Hein? On pourrait dire une connaissance théorique. Que le mal, ça ne va pas trop c'était quoi, mais que ça existe. Et il y avait un arbre qui s'appelait comme ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout ce qu'ils avaient comme connaissance, comme expérience. Il n'y avait pas d'expérience du mal. Une notion qui était totalement abstraite pour eux autres. Aucune référence non plus. Il n'y avait personne d'autre. Autour qui pouvait leur enseigner ça, excepté, on va le voir tantôt, le malin, hein, le serpent. Certains m'ont dit que c'était, ils appelaient ça un état d'innocence. Ils ne connaissaient autrement dit que le bien, le bon, le beau. Il y avait une certaine conscience de la possibilité que le mal existe. Avec les conséquences, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais ils n'ont jamais pensé par eux-mêmes, ils n'ont jamais imaginé même, ils n'ont jamais eu l'idée, ils n'ont jamais conçu même la possibilité de faire le mal. Il n'y avait aucun appétit, aucune attirance pour ça, aucun motif. Ils étaient loin d'être insatisfaits dans ce qu'ils vivaient. Aucune raison de douter de Dieu. Rien qui aurait pu causer ou expliquer la chute. C'était l'œuvre de quelqu'un qui est venu de l'extérieur. Une créature déchue qui est venue semer tout ça dans leur cœur, dans leur pensée. Et là, au lieu de choisir d'aimer Dieu de tout leur cœur, d'écouter sa parole, de suivre son commandement, ils ont choisi. Ils ont eu un autre choix qui a été placé devant eux. Alors, quelle a été la tactique de Satan? Comment qu'on pourrait décrire sa stratégie? Comment est-ce qu'il s'est pris pour approcher? On sait, nous, on a su que c'était un ange déchu, un ange de lumière qui s'est déguisé, hein? Et il a pris la forme d'un serpent, mais à l'époque, il n'y avait pas d'animaux sauvages, hein? Il n'y avait pas de bêtes dangereuses, c'était pas dans le portrait. Et même Adam et Ève avaient été créés pour dominer sur tous les animaux. Alors, il n'y avait rien de malveillant en apparence, rien d'écœurant. Nous autres, on regarde le serpent, puis je ne dois pas avoir ça dans ma chambre, hein? Alors, le diable ne s'est pas présenté. Je suis le diable, je suis le menteur, je suis le meurtrier, je suis l'ennemi de Dieu. Et venez avec moi dans la rébellion, on va se rébeller, on va désobéir, et puis on va terminer notre vie en enfer. Je pense que ça aurait été très, très facile de répliquer à une invitation comme celle-là, n'est-ce pas? Et sa parole, c'est quoi? Il y avait la parole de Dieu, tu ne mangeras pas. Puis il y a la parole du diable qui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit ça? Que vous ne pouvez pas manger de ce beau fruit-là? Hein? Tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Ça n'a pas de sens. Te priver comme ça du bonheur, du plaisir. Hein? Est-ce que le diable a changé de tactique? On va voir ça tantôt. Alors, ils concentrent leur attention sur la seule privation, si on peut dire, ou la seule interdiction qu'il y avait dans leur environnement. Tu avais un arbre qui était défendu, puis tu avais tous les arbres du jardin, tu avais toutes les la satisfaction totale de tous leurs besoins. Et plus. Hein? Alors, pourquoi est-ce que Dieu vous prive de ce bonheur-là? Il doit avoir quelque chose de pas correct. Hein? Il sème le doute sur la vérité de ce que Dieu dit, il sème le doute sur l'intention de Dieu, il sème le doute sur le caractère de Dieu. Est-ce que vie est vraiment bon? Et là, on va faire une petite parenthèse. Une question. Pourquoi est-ce que le serpent s'est attaqué à Ève et il ne s'est pas attaqué à Adam. Bonne question. Il y en a qui croient puis qui sont convaincus que Ève a été créée avec une nature qui est plus faible, est plus vulnérable, est plus facilement influençable, elle a un moins bon jugement. J'ai pas reçu de tomates encore, c'est bon. Puis, l'histoire le prouve, l'histoire de l'humanité le prouve aussi, hein? La femme a beaucoup plus tendance à succomber à la tentation que les hommes. Hein, les hommes sont faits forts. Hein? Il y en a qui sont plus forts que d'autres, même. Ils sont plus rationnels. Ils sont plus sensés. Ils sont plus résistants à la tentation, les hommes. Bon, il y a des choux. Ben. Mais écoute, Adam l'a dit aussi, hein? C'est la femme que tu as placée auprès de moi. C'est elle la pas bonne. Hein? À défaut de tomates, ils ont envoyé des choux. Des choux, ouais. C'est, oh! Hein? C'est la femme qui accuse Dieu. Elle dit, si tu m'avais pas créer cette affaire-là, je ne serais pas tombé. Hein? C'est la femme que tu as créée, que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui est la fautive. Et on a vécu depuis ce temps-là des siècles d'histoires horribles, bâties sur ce mensonge-là. Un énorme pardon à faire aux femmes. Les sociétés, il y a des sociétés, puis notre société aussi. notre d'énorme pardon. Un beau sourire à la mairie de Montréal, hein? C'est-tu bon? Ça fait du bien. Comme s'il y avait quelque chose dans la femme qui n'était pas bon, tu sais, dans sa nature intrinsèque, là, qui aurait causé sa chute. Et là, je vous partage ma conviction. Non, il n'y a pas de défaut de fabrication. Il n'y avait pas de défaut de fabrication. Elle a été créée à l'image de Dieu avec Adam, avec l'être humain. Il n'y avait rien dans sa nature qui n'était pas correct. Alors, pourquoi est-ce que le serpent a attaqué Ève? J'ai eu 2 semaines de préparer ça, fait que j'ai eu le temps d'y penser un petit peu. Pas sûr que j'ai trouvé la réponse, mais quelques indices.
Premièrement, c'est
oui.
Plus facile de convaincre une personne que deux ensemble.
Eh boy! Wow. Elle a eu ça tout de suite. Hey, qui a dit que Ève n'était pas brillante? Hein? Hey, ça m'a pris 2 semaines, là. Alors, pourquoi est-ce que ça attend à Tekiev? Souvenez, la semaine dernière, Marc a fait ce symbole-là de l'unité qu'il y avait entre Adam et Ève. Et là, il a profité que il était séparé, hein? Il a profité d'un moment où elle était à part. Et il y a une explication, hein, que Ève n'était pas là quand, dans le premier récit, hein, l'Éternel a pris l'homme, le place dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel, Dieu donna ce commandement à l'homme. Ève n'était pas créée encore. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je pense qu'il y a quelque chose là. Ève n'était pas là quand le commandement, l'ordre a été donné. Elle n'a pas entendu Dieu de ses oreilles. Alors, j'ai fait une petite déduction, si on peut dire. Hein? Elle n'était pas présente. Donc, Ève n'a pas cru à ce que Adam lui avait dit, que Dieu avait dit. Ève a choisi de croire à la parole du serpent, à ce qu'il lui a dit directement en personne. Tandis que Adam a choisi de croire à ce que Ève lui a dit, que le serpent lui avait dit, Adam n'a pas cru à ce que Dieu lui avait dit directement en personne. Vous me suivez? C'est qui le pas bon? Hein? Lui, il a entendu la parole directement de la bouche de Dieu. Ève l'avait entendu de Adam. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Celui qui est le plus faible. Mais Paul a répondu à la question. Hein? Hein? Adam est plus fautif. Je pense que Paul est d'accord. Par un seul homme. Le péché est entré dans le monde. C'est drôle. Hein? C'est Adam qui a été le plus responsable de la chute. Bon.
Wow.
Pas un ouf.
Finalement, ta sœur n'aura pas de tamar.
Mais peut-être des hommes. Ouais. En tout cas, un petit côté prophète, là. Je sais. Alors, c'est quoi l'erreur de Ève? Est-ce qu'elle connaissait le mandat reçu de Dieu de se multiplier, de dominer sur la terre, ensemble avec Adam, en harmonie, en unité avec Adam, le co-gérant, si on peut, le co-directeur de la planète? Ils avaient le mandat de dominer ensemble la terre à cette époque-là. Pas un plus que l'autre. Et le truc du diable et l'erreur de Ève, c'est quoi? De séparer. Hein? Elle n'a pas consulté. Elle a agi indépendamment, sans respecter, sans soucier Adam qui était à côté d'elle. Elle a fait à sa tête, elle a agi toute seule. Et ça, ça l'a brisé cette harmonie-là qu'il y avait entre les deux. Cette unité-là qu'il y avait entre les deux. Et elle a subi les conséquences, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, les relations entre hommes et femmes ont été brisées. Tristement brisées. Et qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? L'homme a dominé la femme. Oh, il y en a plusieurs, mais oui. Oui, oui. Parce que, en tout cas, c'est une longue réponse, mais il fallait qu'il y ait juste une humanité, pas deux humanités. Une humanité, l'homme a été créé, homme et femme, parce que Dieu ne voulait pas créer une humanité homme, puis une humanité femme, puis qui viennent en conflit, en tout cas. Peut-être que ça ne répond pas à tout. On s'en reparle, Shadan. Alors, oui, alors... Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras des enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » J'aime bien la Bible français courant. « Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. » Dieu n'a pas donné l'ordre à l'homme de dominer sur la femme. C'est la conséquence de cette brisure-là de l'harmonie qu'il y avait entre les deux. Et la domination en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. Il devait dominer la terre. C'est pas une domination qui était malsaine, qui était méchante. Mais ça a mal tourné dans le cas de l'être humain, qui, lui, a un cœur méchant et un cœur qui est le mari qui a traité sa femme d'une mauvaise façon, comme une mauvaise domination sur la femme. Alors, changement radical dans les relations homme-femme. C'est vivable. Si Adam et Ève s'étaient rebellés l'un contre l'autre, qu'est-ce qui serait arrivé? Il n'aurait pas fait une seule chair. Ça aurait arrêté là. Alors, Dieu a permis ce changement-là dans les relations. C'est une façon de sauver la race, de sauver l'humanité. Est-ce que ça a causé beaucoup de malheur, de souffrance, de violence? Beaucoup de cultures, beaucoup de civilisations, qu'est-ce qu'on a fait avec la femme? Comment on a traité la femme? Hein? Pas si vous lisez, là, mais ça, c'est prix de vente des butins. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Une femme âgée de 30 à 40 ans, elle vaut 75 000 dinars, aujourd'hui, là. Un groupe de filles de 1 à 9 ans, ou chrétiennes, 200 000 dinars. C'est aujourd'hui, ça. Hein? C'est comme ça qu'on traite, que l'homme domine sur la femme. Ça ressemble beaucoup à comment on a justifié le trafic des Noirs dans l'histoire. Hein? On est capable de faire dire à la Bible des choses épouvantables, puis justifier des actes épouvantables dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que notre société est meilleure? Il y en a qui abrillent la femme au complet, mais il y en a qui la déshabillent complètement au complet. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? On est scandalisé parce qu'on voit des femmes qui ont juste... Mais c'est normal qu'ils soient tout nus. promène, on trouve ça correct? Non? Ça, c'est le résultat de la domination malsaine de la femme par l'homme à travers l'histoire, à travers les civilisations, à travers les cultures. On a traité la femme comme un esclave, comme un animal, souvent c'était de la marchandise que l'on possédait. Dégradation. Dégradation totale. Jésus est venu et lui, il a rétabli l'ordre là-dedans, dans la création. Jésus a rétabli le statut de la femme. Il est venu mettre fin à ces abominations. Cette malédiction, la domination malsaine de l'homme sur la femme. Jésus a pris la femme, il l'a élevée, il l'a amenée à ses côtés, comme son Église. Il veut que les maris aiment les femmes comme lui aime l'Église. C'est-à-dire que Jésus a pris son Église, il l'élève, il l'amène à ses côtés, puis on règne avec lui. Hein? C'est ce que Dieu veut pour les couples chrétiens. Pas que l'homme exerce cette domination sur la femme, qu'il l'écrase, qu'il la dévalorise, qu'il la traite de pas bonne parce que c'est de sa faute s'il pêche. Yark. Mensonge du diable. Non. Mes frères, là, on élève la femme dans l'Église. Puis depuis 2006, hein, on a voté en tant qu'Assemblée que la femme devienne ancienne dans l'Église pour ça. Si vous voulez avoir l'étude, on peut avoir l'étude. Comment on justifie qu'on prenne une femme et qu'on l'amène à notre... Pas au-dessus de nous, pas en dessus de nous, mais avec nous pour diriger l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est le modèle, le nouveau modèle. En Jésus, il n'y a plus d'homme ni femme. Puis dans l'éternité, là, il n'y aura plus ça non plus. Hein? Ça, c'est le modèle parfait, c'est l'éternité. Il n'y aura que des femmes et des hommes égaux. Ensemble. Alors, c'est toute une question, je le sais, mais réfléchissons là-dessus. Et je ne sais pas si je devrais le faire, mais demandez pardon à mes dames qui sont ici pour le traitement que vous avez subi au cours de l'histoire. Alors, nous, les hommes, on vous demande pardon. En tout cas, je vous demande pardon pour la façon dont on vous a traité et peut-être qu'on vous traite encore. Quelle a été la réponse de Ève? Oups! C'était quoi la réponse de Ève? Voyez-vous quelque chose? Il y a les trois textes là en parallèle. Tu as la parole de l'Éternel, tu as la parole du serpent, puis tu as la parole de Ève. Voyez-vous un petit indice là-dedans aussi? Alors, l'Éternel a dit, de donner l'ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, et le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le serpent y arrive et dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la réponse de Ève, la femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, pas de tous les arbres, OK? Et quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Alors, j'en ai lu des commentaires là-dessus. As-tu bien répondu? Ça n'a pas bien répondu. Elle en a-tu rajouté un petit peu? Il y en a qui disent qu'elle en a rajouté pour impliqué que que Dieu que Dieu était vraiment pas bon. Marc, une réponse. Oui.
Que l'Éternel, il l'a enseigné à sa femme, il l'a retenu, peut-être avec les
interprétations
qu'il faut essayer de comprendre, mais elle a, il y a eu une transmission du
commandement. Oui. Donc, elle était au courant.
Oui.
Hein? Et il y avait une certaine interprétation, mais moi, je ne pense pas qu'il y avait une mauvaise interprétation. Elle en a ajouté un petit peu, peut-être en enlevé un petit peu, mais... Elle avait tout ce qu'il fallait pour douter du diable, du serpent, hein? Pas de Dieu. Elle aurait dû être consciente du geste qu'elle posait. Elle aurait dû être. Et le serpent dit, vous ne mourrez pas du tout. Et dans sa réponse, il dit, vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. C'est un petit peu plus faible, je pense, dans l'original. C'est comme, peut-être que si on fait ça, on va mourir. Hein? Mais le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calomnié Dieu. Directement, c'est une calomnie. Calomnie, c'est quoi? C'est dire du mal de quelqu'un qui n'est pas là, hein, dans son dos. Le diable, c'est le calomniateur, il a calomnié Dieu. Pardon? Oui, c'est ça, Dieu. Il a contredit carrément au gouvernement. Vous ne mourrez pas du tout. Hein? Vous ne mourrez pas du tout. Il a mis en doute la nature de Dieu, ses intentions. Il veut vous empêcher d'être son égal. Hein? Oui.
Je me demande quel concept qu'il pouvait avoir, par exemple, Adam et Ève, de c'est quoi de mourir. Est-ce qu'elle, elle a minimisé la conséquence?
Peut-être.
Parce qu'elle ne connaissait pas c'était quoi mourir.
Oui, c'est possible. J'ai pas de... Je ne peux pas l'affirmer, mais c'est... oui, c'était quoi la mort? Hein? C'est quoi le mal? Vous savez, ils ne connaissaient pas ça. Hein? Alors, il y avait toute cette fausse image de Dieu. Hein? Elle a créé une fausse image de Dieu. Dieu, il n'est pas bon. Dieu, il veut vous priver du plaisir, puis et elle a avalé le mensonge avant d'avaler le fruit. Hein? Le mensonge du diable, c'est comme le petit verre, là, le leurre. Et elle ne savait pas que toutes les conséquences. Elle a vu que c'était bon à manger, bon à manger. Comment qu'elle savait que c'était bon à manger? Elle n'a jamais goûté. Hein? Mais elle a vu. Il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle, un appétit qui venait d'être stimulé. Hein? Un appétit qui n'était pas là avant. Mais le diable est venu semer cette chose-là pour dire, garde, agréable à la vue. Le monde autour. Est-ce qu'on est tenté par les choses qui sont autour de nous? Est-ce que le monde, hein, c'est le monde, agréable à la vue du monde et de tout ce que ça offre, est précieux pour ouvrir l'intelligence, quelque chose qui se passe dans ma pensée? Alors, elle était tentée, hein, les trois ennemis, la chair, le monde et le diable. On pourra revenir là-dessus. Alors, j'ai une dernière question. Quelle différence qu'il y a entre Adam et Ève et nous face à la tentation? Eux, ils étaient dans un état d'innocence. Jamais qu'ils avaient expérimenté ou connaissaient le mal. Ils étaient sans péché. Même dans leur chair, il n'y avait aucune convoitise. Ils n'étaient pas attirés par le fruit défendu. Le monde autour, est-ce qu'il était tentant? Non? Mais eux autres, il y avait un serpent. La différence avec nous, est-ce qu'on est, on est dans un état d'innocence, nous? On est né dans le péché, avec une nature pécheresse. C'est énorme comme différence. Eux, ils étaient innocents. Nous, on est notre nature pécheresse. On est né dans le péché. On l'a pratiqué en masse, le péché. Puis depuis longtemps, on a beaucoup d'expérience avec le mal. Et on a cette chair stupide à l'intérieur de nous qui est toujours, hein, qui est toujours prête à avaler tout ce qui a l'air appétissant. C'est toujours là. Il n'y avait pas ça, eux autres. Alors, nous, on vit dans un monde qui offre de satisfaire toutes nos passions à l'extrême, à un clic. Hein? C'est un clic. Faites une recherche sur Adam et Ève, vous allez voir. Non, faites-le pas. On peut se gaver de cochonneries à l'infini. Le monde, de plus en plus, a développé cette chose-là. Mais nous, on n'a pas de serpent. OK, vous dormez, là? Non, le diable est disparu de la province de Québec, pour ceux qui viennent d'arriver, non? Ça fait quoi, au moins une génération, peut-être 40 ans, que le diable est disparu de la province de Québec? C'est un personnage folklorique. Hein? Même on célèbre sa fête il y a quelques semaines. Hein? Oui, mais on lui attribue pas. On ne lui attribue pas le malheur. Le diable prend de l'ampleur. Mes frères, mes sœurs, il y a tout un monde spirituel, hein, d'esprits méchants, d'esprits mauvais, qui sont à l'œuvre dans la province de Québec, en sourdine, par derrière, hein, qui viennent t'obséder, qui viennent te tenter, qui viennent te torturer dans ton esprit, avec un vieux mensonge, mets Dieu dehors, mets sa parole de côté, mets ses principes de côté, paye-toi la traite, tu vas avoir du fun, ça va être la vraie vie, tu vas trouver le vrai bonheur. Ça, c'est le mensonge qui date d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Mets Dieu de côté, mets ses principes de côté, puis lance-toi, mon gars, dans toutes les convoitises du monde. Il y a un exemple, c'est le concubinage. Hein? Imaginez, notre Québec est à l'avant-garde là-dedans. Hein? Actuellement, près 50% des mariages au Québec se concluent par un divorce. Une personne sur deux au Québec est divorcée. 37% des couples vivent en union libre. C'est beau, union libre. Hein? C'est un bel euphémisme. 13,4% dans le reste du Canada, on est en avance, nous. Hein? Dans l'évolution de la race humaine. 37% vivent en union libre, plus qu'une personne sur trois au Québec vit sans être mariée, tandis que 13% au Canada. 63% des enfants québécois naissent de couples non mariés. Deux enfants sur trois naissent de couples non mariés. Les couples qui mettent fin à une union libre ont vécu ensemble en moyenne 4,3 ans. Alors, on décide de vivre ensemble, ça dure 4 ans en moyenne. Tandis que les couples mariés, c'est un peu plus long, 14 ans. Une autre statistique, on estime à 67% la possibilité de divorce des couples mariés depuis 1990. Ça, c'est 50%, ça, c'est toutes les couples, tous les âges. Mais depuis 1990, c'est passé de 50 à 67%. C'est plus 1 sur 2, c'est 2 sur 3 des couples mariés. 50% des couples qui divorcent le font avant la cinquième année, alors au lieu de 14 ans. Le taux d'échec des couples reconstitués est de 10 à 20% supérieur au premier mariage et survient plus rapidement. Hein? On ne se marie pas parce que ça ne marche pas le mariage. Et puis, on va vivre ensemble, on va s'accoter ensemble. Puis ça dure deux fois, encore pire, deux fois pire. Deux fois pire. Parmi les couples qui survivent, les psychologues estiment que plus de la moitié se résignent et se supportent pendant des décennies, ce qui laisse un maigre 15 à 20 de couples véritablement heureux à long terme. Un vieux mensonge. Hein? Vieux mensonge. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent? Y a-t-il des gens qui souffrent au Québec? Ça va s'améliorant? On est plus libre? On peut faire tout ce qui nous plaît? On a mis Dieu dehors, c'est nous autres qui décident qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal pour nous. Et le résultat, c'est la société qui est on retourne au paganisme à 100 000 à l'heure. Alors, désolé, ce matin, c'est pas drôle, mais c'est la réalité. C'est la réalité que beaucoup de personnes ici vivent. Hein? Divorce. Malheur dans le mariage. C'est la réalité. Hein? Vous pourrez passer des petits papiers et vous dire, c'est quoi votre taux de bonheur dans votre relation actuellement? Puis on pourrait lire ça en avant, là. Mes frères, mes sœurs, je pense qu'on a besoin d'un réveil au Québec. Hein? On a besoin de guérir ces choses-là. On a besoin d'outils, de principes qui vont faire qu'on va avoir la victoire sur le mensonge. Qu'est-ce que Ève aurait dû répondre? La suite, la semaine prochaine. Hein? Qu'est-ce qu'elle aurait dû répondre? Dieu a réellement dit. Hein? Je suis pleinement convaincu. Je fais pleinement confiance que Dieu, il veut mon bonheur et que si je suis sa parole, je vais le récolter, peu importe ce que tout le monde peut me dire autour. Hein? Arrière de moi, Satan. Hein? Il est écrit. Jésus, le second Adam, il est venu. Puis il nous a montré comment résister à l'ennemi, comment résister au diable. Alors, en attendant, d'ici à la semaine prochaine, un petit truc de vieux guerrier, là. Hein? On a cette image-là. Il y a plein d'idées qui peuvent nous attaquer, qui peuvent nous dire. Alors, un bon truc, là, vous levez la main. Puis vous dites, ça vient d'où cette pensée-là? Ça vient d'où ça, cette pensée-là? Et si on est capable de dire que ça ne vient pas de Dieu, vous avez gagné la bataille. Parce que là, tu vois le vrai visage du serpent qui vient nous séduire. Alors, tu as une pensée, tu as un désir, tu as quoi que ce soit qui vient. On ne peut pas être exempt de tentation, surtout dans le monde dans lequel on vit. Il y en a des pensées, il y en a des désirs. Mais on peut dire, oups, hein? Ça vient d'où, cette pensée-là? Et si ça ne vient pas de Dieu, je ne perdrai pas une minute à ruminer la pensée du diable. Ça peut être des pensées méchantes, comme la dame qui est là. Ça vient d'où, cette pensée-là? Est-ce que c'est un frère qui est venu me dire une parole blessante? C'est le diable qui est derrière qui veut me torturer? Je vais-tu passer la nuit à me torturer avec ces pensées-là? Non, non. Ça vient d'où, ça? Dehors. Hein? Je te chasse. Je chasse cette pensée-là qui ne vient pas de Dieu. Et je fais confiance au Seigneur. Je vais suivre ce que le Seigneur me dit. Et peut-être que on n'aura pas le bonheur parfait sur terre. Mais ce qui est garanti, c'est que aujourd'hui même, si je meurs, je serai avec le Seigneur dans le paradis. Amen. Seigneur, on vient devant toi, Seigneur, tel que nous sommes. Tu connais, Seigneur, l'état de chacun. Et combien, Seigneur, tu veux guérir les cœurs brisés, combien tu veux libérer les captives qui sont sous la domination d'un mari qui est méchant, qui les maltraite. Seigneur, tu es venu libérer. Tu es venu élever la femme que tu as créée à ton image pour être en relation harmonieuse avec son mari, avec les autres hommes. Et Seigneur, je te demande pardon et les hommes te demandent pardon ce matin de la façon dont nous avons traité les femmes dans notre société, dans la culture et dans les autres cultures. Seigneur, pardon. Et montre-nous maintenant comment on peut l'élever, élever la femme à côté de nous pour bénir la planète. Seigneur, notre Québec, il a besoin, on l'a vu, le Québec a besoin de modèles qui sont heureux dans le mariage, dans leur vie personnelle. Et ça commence ici. Ça commence ici ce matin. Nous avons le message que le Québec a besoin d'entendre. Alors, Seigneur, guéris-nous, délivre-nous et qu'on puisse donner au suivant. Amen.
Amen.
À l'attaque.